Alors, bonjour à tout le monde. Un excellent sabbat. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Luc. Luc, le chapitre 16. Moi, je me suis mis un petit marqueur dans cette page-là parce qu'on va y revenir durant le message à différentes occasions. Et le titre du message aujourd'hui, c'est « L'homme riche et Lazare ». L'homme riche et Lazare. Vous savez, c'est une parabole importante que le Christ a donnée. Et c'est une parabole qui, à première lecture, parfois semble compliquée. Puis on a de la difficulté parfois à expliquer les différents éléments de cette parabole-là. Et ce qui arrive en plus, c'est que les gens qui croient que les morts vont au ciel après leur mort se servent de cette parabole-là pour dire, bien, regardez, les gens vont au ciel quand ils meurent, c'est marqué ici. Ou bien, les gens qui croient que l'enfer existe vont servir de la même parabole pour dire, regardez, l'enfer existe, c'est marqué dans Luc 16, la parabole de l'homme riche et Lazare. Et ils tirent de cette conclusion-là et ça prouve leur conception erronée qu'il existe un endroit au ciel où les gens vont après leur mort s'ils ont été bons durant leur vie et qu'il existe un autre endroit quelque part ailleurs qu'on appellerait l'enfer et où Dieu ferait souffrir éternellement ceux qui ont refusé de lui obéir. OK, ça c'est la conception erronée que de grandes religions du monde ont et ils se servent de cette parabole-là souvent pour soi-disant étayer leur croyance. Alors, on sait par les Écritures, je ne veux pas entrer là-dedans, ça demande toute une autre étude, mais on sait par les Écritures que les morts sont morts. C'est la définition la plus simple et la plus juste que je peux donner. Les morts ne sont plus vivants, ils sont morts. Mort, ça veut dire sans vie, tout simplement. D'ailleurs, écoutez, soyez logiques. La Bible parle à tellement d'endroits qu'il y aura une résurrection des morts. S'il y aura une résurrection des morts, c'est parce que les morts sont morts. Ils ne sont pas vivants. Tout simplement. Vous savez, il ne faut pas chercher de midi à 14 heures, il faut voir ce que la Bible dit vraiment. Mais la parabole de l'homme riche et Lazare est étrange un peu dans sa façon de décrire les choses. Alors, on va se servir de la Bible aujourd'hui. Et on ne se basera pas sur des raisonnements humains. On va se baser sur ce que dit la Bible. Et on va clarifier les aspects de ce surprenant récit que l'on retrouve dans Luc 16. D'abord, on va lire la description de cette parabole. Luc 16, versets 19 à 31, parce qu'on va revenir régulièrement dedans. Verset 19, c'est le Christ qui parle. « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il, en parlant du riche, leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare, lui, a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous, et je l'expliquerai plus tard, un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères, C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait des morts. » Alors, voilà la parabole que le Christ a donnée. Et juste pour vous donner un aperçu maintenant, cette parabole-là, ça décrit exactement l'Évangile. Ça annonce le salut, ça annonce la vie éternelle et ça annonce la résurrection. Maintenant, on va voir comment. D'abord, il faut dire, quand on lit d'abord Luc 16, versets 14 et 15, faut dire que ça précède immédiatement la parabole que je viens de vous lire et ça nous donne le contexte de la parabole que le Christ donne. C'est marqué 14-15, « Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de Jésus. Jésus leur dit, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu, et ainsi de suite. » Alors, les pharisiens étaient riches, ils étaient avares, comme la Bible décrit, ils se moquaient du Christ, qui était un homme ordinaire, sans grande richesse, et il se moquait de ses disciples, qui étaient des gens simples et des gens non fortunés. En plus, le Christ, selon eux, avait le culot de leur parler d'argent. OK? Il venait de donner, d'ailleurs, au début de Luc 16, il venait de donner la parabole de l'économe infidèle, et ça s'adressait à eux autres. Et eux, qui trouvaient que ça ne convenait pas que le Christ leur parle d'argent, ils étaient convaincus que si quelqu'un était riche, ça voulait dire automatiquement qu'il plaisait à Dieu et que Dieu le bénissait en conséquence. Voyez-vous? Alors, ils se voyaient comme bon. Dieu nous bénit, on est en charge, on est des leaders, on a beaucoup d'argent, on a raison, et lui vient nous mettre en cause, ça n'a aucun sens, il n'acceptait pas. Bon, je reviens à la parabole, verset 22. Le pauvre mourut et fut porté dans le sein d'Abraham. Verset 23, le riche meurt aussi, on le met en terre, et il voit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Je vais vous expliquer des choses là-dedans. D'abord, si on va consulter des écrits de spécialistes en langue, des linguistes, comme par exemple J.T. Tyer, l'expression « être dans le sein de quelqu'un » veut dire être dans une relation très proche avec quelqu'un, d'être un parent intime avec quelqu'un. Dans cette parabole, ce que ça indique, c'est que Lazare était dans cette relation de parenté intime avec Abraham. Faut que je précise qu'une parabole, c'est un récit inventé pour démontrer une vérité, hein? OK? Alors, bon, ici, Lazare, on voit qu'étant porté dans le sein d'Abraham, on voit qu'il est en relation étroite de parenté avec Abraham. En fait, ce que ça veut dire, c'est que Lazare est un fils d'Abraham, tout simplement. Parce qu'on voit dans Galates 3, verset 7, vous pourrez aller voir vous-même, Galates 3, verset 7, « Ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. » OK? « Ceux qui ont la foi sont des fils d'Abraham. » Abraham est le père des croyants, on voit ailleurs. Alors, Lazare est en union, dans la parabole, en union parfaite avec le père des croyants, avec Abraham, parce qu'il est lui-même un croyant qui vit selon les voies de Dieu. Bon, ça, c'est important qu'on ait ça comme prémisse. Et comme Lazare est un fils d'Abraham, un descendant spirituel d'Abraham, il va avoir droit à quoi? À l'héritage d'Abraham. Quand on est le fils de quelqu'un, on a droit au même héritage que la personne en question. Genèse 17, verset 8, il est écrit ceci, « Lorsque Dieu parle à Abraham, je te donnerai à toi et à tes descendants, après toi, le pays que tu habites comme étranger. » Voyez-vous la promesse que Dieu avait faite à Abraham ici? Il dit, « Là, je t'envoie d'un pays que tu ne connais pas, un pays étranger pour toi. Tu vas vivre dans ce pays-là, je te le donne en héritage à toi et à tes descendants après toi, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. » Vous irez voir dans Genèse, donc, 17, verset 8. Je m'excuse, je n'ai pas donné le bon verset tantôt, Genèse 17 et le verset 8. Ce que je veux attirer votre attention ici, ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que la promesse, elle est double. C'est que Dieu dit à Abraham que dans le futur, à sa résurrection, parce qu'Abraham est mort, à sa résurrection, Abraham va recevoir en possession le pays de Canaan, où il avait été envoyé, dans lequel pays il était alors étranger, et non pas propriétaire du pays, il était étranger, comme la Bible nous dit. Il était étranger et voyageur. OK? Ça, c'est la première partie de la promesse. Donc, de lui donner la terre de Canaan, une possession terrienne. Et la deuxième partie de ça, c'est de posséder à perpétuité cet héritage-là. Mais là, je fais une parenthèse. Si vous êtes pour posséder quelque chose à perpétuité, il faut que vous viviez à perpétuité. Sans ça, vous l'avez possédé le temps que vous avez vécu. Mais il dit à Abraham, tu vas l'avoir à perpétuité. Toi et tes descendants. Donc, l'héritage était un territoire, plus possession de ce territoire-là, mais à perpétuité. Allez dans Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, et le verset 9. C'est par la foi qu'Abraham vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. OK? Verset 10. Car il attendait la cité de solide fondement, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il savait, à ce moment-là, que cette terre-là qui allait être la sienne plus tard, ce n'était pas le moment qu'il allait la recevoir plus tard. OK? C'est bien clair, c'est bien précis là-dedans. Et Abraham le savait. Maintenant, on va plus loin. Le pauvre, dans la parabole, qui est identifié comme fils d'Abraham, va donc recevoir le même héritage qu'Abraham. Il va recevoir la terre en héritage, plus l'immortalité pour l'avoir à perpétuité. Ça fait partie du testament de ce qu'il va recevoir en héritage. À quel moment est-ce qu'il va le recevoir? Là, je pose la question autrement. Est-ce qu'un fils peut recevoir l'héritage de son père alors que son père ne l'a pas lui-même encore reçu? Pas possible, hein? OK. Alors, Lazare n'a pas pu, dans la parabole, avoir l'héritage suite alors qu'Abraham ne l'avait pas reçu encore. Il va le recevoir. Mais il ne peut pas le recevoir avant que son père ait reçu son héritage. Alors, Lazare ne peut pas le recevoir avant qu'Abraham ne l'ait d'abord reçu. Et Abraham ne l'a pas encore reçu, comme on voit dans Hébreux 11 et le verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Formidable. C'est la même chose que nous, un peu. Je fais une petite parenthèse, parce que nous, on voit avec les yeux de l'Esprit, puis l'Esprit que Dieu nous donne, on voit le monde à venir, on voit la libération du monde, le retour de Christ. On ne le voit pas encore autour de nous, parce que ce n'est pas encore le monde de Dieu, mais on sait que ça vient. On est comme eux autres, dans la même position, dans le fond. Dieu nous donne cette vision-là. Bon, à quel moment, maintenant je pose la question, est-ce qu'Abraham va recevoir son héritage? Vous êtes des étudiants de la Bible, vous savez que c'est au moment de la première résurrection. Quand le Christ va revenir, ceux qui sont morts en Jésus-Christ, qui lui ont appartenu au cours de l'histoire, vont être ramenés à la vie parce qu'ils étaient morts durant tout ce temps-là, vont être ramenés à la vie et là vont recevoir la vie éternelle et leur récompense et leur héritage. C'est précisément donc à la première résurrection que les morts appartenant au Christ, y compris Abraham et y compris le Lazare de la parabole, même si c'est symbolique dans son cas, vont recevoir la vie éternelle, c'est-à-dire qu'ils vont revêtir l'immortalité. Matthieu 25. Matthieu 25. Matthieu, chapitre 25. Et regardez le verset 31. « Lorsque le Fils de l'homme viendra, dans sa gloire, avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Verset 31. Verset 34. « Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, et prenez possession de votre héritage du royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. » Et ce, dans l'immortalité et la gloire qui leur sera donnée à ce moment-là. Alors, on voit exactement à quel moment Abraham va recevoir son héritage et va recevoir l'immortalité, en même temps que tous les fidèles de Dieu à travers l'histoire et ceux qui le sont encore aujourd'hui. Matthieu, ben, on ne s'y reportera pas, mais à ce sujet-là, moi, je trouve qu'il y a un passage vraiment enthousiasmant dans les Écritures qui nous montre la majesté du Dieu qu'on sert. Dieu est en dehors du temps. Ça, c'est une chose qu'on oublie parfois, mais Dieu est en dehors du temps. Et, mais il nous dit, et c'est pour ça qu'il nous dit ça dans Matthieu 22, 32, vous pourrez aller voir. Il dit, « Dieu est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. » Pourquoi il dit ça? Parce que pour lui, c'est comme si c'était terminé. Comme s'il avait ramené à la vie, selon sa promesse de résurrection, ceux qui doivent être amenés à la vie. Alors, il dit, « Je suis le Dieu des vivants, je ne suis pas le Dieu des morts. » Parce que le plan que j'ai fait, je l'accomplis. Et je vais l'amener à terme comme ça doit être fait. Alors, je reviens à ça. Abraham et Lazare sont morts, demeurent dans cet état jusqu'à la première résurrection, moment où les serviteurs du Christ vont revenir à la vie. Ils ne sont pas montés au ciel. Ils ne sont pas allés au ciel dans un lieu de félicité, comme croient beaucoup de personnes. Parce que la Bible dit au contraire dans plusieurs endroits qu'on ne va pas au ciel, que la récompense est sur la terre, que les gens vont être ressuscités et ils vont vivre sur la terre. D'ailleurs, la Bible dit clairement dans Jean 3 et le verset 13, « Personne, c'est, ça comprend beaucoup de monde, hein? Personne n'est monté au ciel si ce n'est le Christ, le Fils de Dieu. » Alors, ça clôt, pour ainsi dire, ça ferme la porte complètement. Il n'y a pas personne après leur mort, qui sont allés au ciel. Il y a juste le Christ qui est retourné là où il était auparavant. Et il est là jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont parle la Bible, jusqu'au moment de son retour et de l'établissement de son royaume sur la terre. Bon, alors ça fait un point d'établi. Revenons à la parabole maintenant. On lit dans Luc 16, verset 22, qu'après sa mort, et là on arrive à un point délicat, sur lequel plusieurs achoppent. On lit dans 16-22 qu'après sa mort, Lazare est porté par les anges dans le sein d'Abraham. Première question là-dessus, à quel moment les anges vont faire ce travail? À quel moment les anges vont prendre Lazare et vont, pour ainsi dire, l'amener dans le sein d'Abraham? Il y a différents passages dans la Bible qui nous le montrent. Vous pourrez aller voir Matthieu 25, verset 31. Je ne me reporterai pas Matthieu 25, verset 31, mais je vais aller à Matthieu 24. Matthieu 24, et ça décrit très clairement à quel moment les anges vont faire ce travail par rapport aux serviteurs fidèles de Dieu qui se seront endormis du sommeil de la mort d'ici le retour de Christ. Matthieu 24, verset 30 et 31. « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. » Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alors, on voit que c'est sa deuxième venue. C'est quand le Christ va revenir, très bientôt. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Verset 31. « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. » À quel moment est-ce que les anges rassemblent les élus de Dieu et les amènent au Christ? Pour le rencontrer sur les nuées, là où il va descendre, avant de descendre sur le mont des Oliviers à Jérusalem, comme c'est marqué dans Zacharie, c'est exactement le moment de la première résurrection. Et c'est à ce moment-là que les anges amènent, dans la parabole, Lazare dans le sein du Père des croyants, dans le sein d'Abraham. Au moment, donc, de la seconde venue du Christ, au moment de la résurrection, lorsque les élus vont prendre possession de la vie éternelle et de la terre promise. C'est ça, exactement à ce moment-là. Et c'est à cet instant béni que les élus vont être parfaitement unis à Dieu, leur Père, et au Christ, le plus vieux de la famille, leur Sauveur, notre grand roi à venir. Lui, le grand berger. Et ils seront unis à eux d'une relation intime parfaite avec le Père et avec le Fils. Père, je te prie pour qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Voilà la dimension de ces choses-là. C'est pourquoi l'Écriture dit, vous irez voir dans Jean 1, verset 18, Jean 1, verset 18, c'est écrit que le Christ est dans le sein du Père. Mettez tout ça ensemble. Le Christ est dans le sein du Père. Pourquoi? Parce qu'il est en harmonie parfaite avec son Père, parce qu'il est en union de parenté parfaite. C'est son Père, il est le Fils, ils forment un, avec le même caractère, le même but, la même culture, la même façon de penser, la même façon d'agir. Le Christ est dans le sein du Père. C'est une parenté parfaite. C'est intéressant. Allez voir dans Ésaïe. Je pense qu'il faut, ça vaut la peine. Ésaïe 40. Moi, ça m'a vraiment touché quand j'ai lu ce verset-là hier soir en préparant le sermon d'aujourd'hui. Ésaïe 40, le verset 10 et 11. Et ça parle du retour de Christ. Qu'est-ce que le Christ va faire à ce moment-là? Avec vous et moi, si on est fidèle jusque-là, avec ceux qui seront ramenés à la vie, dont Lazare, symboliquement dans la parabole. Ésaïe 40, verset 10. « Voici, le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. » Il parle de son retour. « Et son bras, et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui, et la rétribution le précède. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Il les portera dans son sein. » Vous, cette relation d'affection, d'amour, de parfaite unité. Le Christ qui prend ses frères et ses sœurs dans ses bras parce qu'ils sont les siens, parce qu'ils sont membres de la famille de Dieu, qu'ils ont développé son caractère avec son aide, qu'ils se sont repentis, qui ont été persévérants, qui ont été fidèles. Alors, voyez-vous, on retrouve encore la même expression, être dans le sein de quelqu'un, c'est être en relation parfaite. Et ça veut dire même plus, ça veut dire être sous sa protection, être sous son amour, partager sa grâce, partager son héritage. Et c'est exactement ce qui va arriver à la résurrection. Voyez-vous comment tout se tient et comment la parole de Dieu est formidable, claire, lorsqu'on met en perspective les différents versets qui parlent du même sujet, et non pas qu'on tire un verset hors de son contexte ou une parabole hors de son contexte et qu'on lui fait dire des choses. Ça, c'est important que vous compreniez cette parabole-là, que vous notiez des choses, que vous refassiez le travail après pour bien vous assurer de la comprendre, d'être capable de répondre aussi aux questions que vous pourriez avoir éventuellement là-dessus. On doit être capable de comprendre ça. Maintenant, voyons le sort de l'homme riche. Luc 16. On retourne à Luc 16, verset 22. Luc 16, verset 22. La fin du verset, « Le riche mourut aussi et il fut enseveli. » Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Verset 23, « Dans le séjour des morts, il leva les yeux. » Je ne vais pas plus loin. Verset 23 nous dit, « Dans le séjour des morts. » Donc, le riche, à sa mort, est placé dans le séjour des morts d'où il lève les yeux. Le mot en grec ici, vous pourrez faire une recherche plus poussée, mais je ne veux pas développer cet aspect-là, mais c'est « hadès », H-A-D-E-S. Le mot grec, c'est « hadès », qui signifie « séjour des morts ». Et ça signifie simplement le sépulcre, la tombe ou le lieu d'ensevelissement d'un corps, là où on place un corps quand la personne est morte. La tombe, le cercueil, le lieu d'ensevelissement. Alors, le riche, son corps est mis dans le lieu d'ensevelissement. Il n'est pas envoyé en enfer, là. Son corps est mis, parce qu'il est mort, il n'a plus de vie en lui, il est mis là, et il attend le temps de la résurrection. D'ailleurs, vous pourrez aller voir vous-même dans Actes 2, verset 31, l'apôtre Pierre, ici, lors de son premier grand sermon, de son premier grand discours public après la Pentecôte, décrit un peu ce qui est arrivé au Christ. Et en parlant du Christ, il dit... Il Il était promis qu'il ne serait pas abandonné dans Hadès. Il était écrit que le Christ ne serait pas abandonné dans le séjour des morts ou dans le sépulcre. Le même mot qui est utilisé par le Christ dans la parabole de l'homme riche et Lazare pour dire là où l'homme riche a été mis une fois qu'il a été mort. Il a été mis dans Hadès, là où le Christ a été placé lorsqu'il est mort, dans le sépulcre, dans une tombe, dans un tombeau. Alors, le Christ a été placé là aussi. Et l'homme riche, donc, après son décès, a été placé dans Hadès, dans un sépulcre. Il a été enseveli dans une tombe, tout simplement, puis a été placé en terre. Maintenant, à quel moment est-ce qu'il lève les yeux? Dans la parabole, ce n'est pas tout expliqué. Mais il faut comprendre qu'il y a plus qu'une résurrection mentionnée dans la Bible et bien expliquée dans la Bible. Alors, il s'agit de voir à quel moment le mauvais riche a levé les yeux, c'est-à-dire qui est revenu à la vie et qui est sorti du tombeau où il avait été placé. Comme dans le cas du pauvre, la réponse n'est pas claire, il faut regarder ailleurs, il faut prendre d'autres versets bibliques. Daniel 12, versets 1 et 2. Daniel 12, où il est question de résurrection. Daniel 12, verset 1. « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse. » Bon, il parle ici de la grande détresse qui est juste devant nous maintenant. Cette époque unique. « Tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux du peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Alors, certains, à ce moment-là, vont être sauvés. Verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière. Alors, il parle ici, dans un premier temps, de ceux qui vont être encore vivants, parmi ceux qui appartiennent au Christ. Ils vont recevoir le salut. Ils vont recevoir la vie éternelle à ce moment-là. Ils vont être transformés en un instant, comme dit 1 Corinthiens 15. OK? Maintenant, il dit, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière à ce moment-là, au moment du retour de Christ, vont se réveiller. Et là, il fait une distinction après. Les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre ou la honte éternelle. C'est le contraire de la vie éternelle. Les premiers sont ressuscités pour avoir la vie et l'immortalité, la vie éternelle, et les autres sont ressuscités pour avoir le contraire, pour mourir éternellement, pour ne plus vivre. OK? Sauf que ce n'est pas mentionné dans le verset ici, mais il y a beaucoup d'années entre les deux résurrections ici. Et c'est ce qu'il faut se rappeler lorsqu'on regarde ce verset-là. Donc, dans Daniel 1 et 2, ça nous parle de deux résurrections, celle des justes et celle des méchants incorrigibles qui ne veulent pas se repentir, qui refusent Dieu, qui rejettent Dieu volontairement, en pleine connaissance de cause. Eux vont être amenés à la vie, mais pour être détruits finalement, éternellement. Ils vont connaître donc des dénouements très différents et à des moments différents, comme j'ai expliqué aussi. On voit qu'au temps de la fin, les justes encore vivants vont être sauvés, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir la vie éternelle, comme j'ai mentionné. Quant aux justes qui seront alors dans le séjour des morts ou dans un état de mort, ils vont être ressuscités. Qu'est-ce qui va arriver? Ils vont lever les yeux, comme c'est décrit dans la parabole. Ils vont lever les yeux pour recevoir leur récompense, la vie éternelle. Ça, c'est la première résurrection. Alors que les incorrigibles, plus tard, beaucoup plus tard, OK, après le 1000 ans et après le 100 ans, là, vont être amenés à la vie, eux, pour être détruits éternellement, pour la honte éternelle, comme on a vu dans le livre de Daniel. Allez à Jean, chapitre 5. Il y a beaucoup de choses, mais si vous prenez la peine, après le message aujourd'hui, de rassembler les différentes pièces et de les mettre ensemble, vous allez vous fortifier dans la compréhension de l'Évangile et dans la compréhension particulièrement de cette parabole-là qui donne parfois du fil à retordre et dont certains se servent erronément pour prétendre qu'il y a un ciel et un enfer. OK? Alors, Jean 5. Alors, plus tard, la troisième résurrection, les incorrigibles, ceux qui refusent obstinément de se soumettre à Dieu, vont être anéantis dans les temps de feu. Jean 5, versets 28 et 29. Regardez ce que le Christ dit. « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient. » Où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Même chose qu'on vient de voir dans Daniel 12. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle, comme on a vu. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement, c'est-à-dire pour la condamnation éternelle, qui est le châtiment de perdre sa vie pour l'éternité. Et là aussi, entre ces deux lignes-là, il y a 1100 années de différence. OK? Une fois qu'on sait ça, ça nous aide, avec cette grille-là, à bien comprendre beaucoup d'éléments dans la parole de Dieu. Alors, verset 28, donc, le Christ dit que tous ceux qui sont dans les sépulcres, c'est-à-dire dans le séjour des morts, vont entendre sa voix. Ils vont sortir, ils vont revenir à la vie. Alors, Jésus parle encore ici de deux résurrections différentes qui vont connaître un dénouement différent. Ceux qui auront fait le bien, qui auront choisi la voie de Dieu, vont ressusciter pour recevoir la vie éternelle, alors que ceux qui vont avoir refusé de se soumettre à Dieu et de vivre selon ses voies, refuser de faire le bien volontairement, totalement, vont à ce moment-là revenir à la vie physique, en étant chair et sang, pour être détruits à jamais dans les temps de feu. Comme on voit dans Apocalypse 20 et le verset 15. Vous pourrez vous rapporter Apocalypse 20, verset 15. Ça parle de l'étang de feu où seront détruits les incorrigibles. Et à la toute fin, c'est même marqué que la mort va être anéantie. Pourquoi qu'au bout de l'histoire, Dieu dit que la mort va être anéantie? Mais oui, mais écoutez, après que les incorrigibles, les quelques incorrigibles qui auront refusé délibérément d'obéir à Dieu ou qui se sont détournés volontairement du vrai Dieu vont être éliminés, il ne restera plus d'être humain mortel. Parce que tous les autres auront été changés en être immortels. Ils auront reçu l'immortalité. Alors la mort, pour les humains, va être détruite. Elle n'existera plus, tout simplement. Vous pourrez aller voir dans Ésaïe 25, verset 8, il y a un verset qu'il mentionne très joliment de la façon dont Dieu parle concernant le fait qu'il va éliminer la mort. Apocalypse, chapitre 20. Apocalypse, chapitre 20. Ici, on va voir rapidement l'ordre dans lequel les résurrections vont se faire. C'est important qu'on le voit parce que ça s'inscrit exactement dans la description de la parabole. C'est important qu'on ait ça à l'esprit parce que c'est un des fondements qu'on a besoin d'avoir pour comprendre les prophéties. Apocalypse 20, versets 4 et 5. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause de leur témoignage, du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, donc ceux qui ont été fidèles à travers l'histoire, qui ont même donné leur vie, comme Étienne, le premier martyr qu'on voit dans les Écritures, et d'autres qui ont suivi par la suite, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. » Alors, on voit ici, donc, dans l'ordre des résurrections, que c'est la première résurrection qui a lieu au retour de Christ. Ceux qui lui appartiennent à ce moment-là, qui sont décédés, reviennent à la vie, sont changés en être immortels et travaillent sous le Christ. Ceux qui sont encore vivants, qui lui appartiennent au moment de son retour, sont transformés en un instant et rejoignent le Christ avec les autres dans les nuées pour redescendre ensuite sur le mont des Oliviers et établir le gouvernement de Dieu sur la terre. C'est la première résurrection. Et on voit à la fin du verset 5, c'est la première résurrection. Ce petit bout de phrase-là devrait normalement être au début du verset 5. Maintenant, si on va plus loin, verset 5, « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. » Ça, c'est tous ceux qui n'ont jamais existé, c'est-à-dire, mais qui n'ont jamais connu le vrai Dieu, qui n'ont jamais été appelés par Dieu. Et c'est des milliards d'êtres individus, la vaste majorité. Et là, eux, après le 1000 ans, sont ramenés à la vie. Ils ont leur chance, enfin, de connaître Dieu. Et comme on voit au verset 11, à ce moment-là, ils se font enseigner. Ils se font enseigner les choses de Dieu. Alors, ça, c'est la seconde résurrection. Ils ne revivent qu'après le 1000 ans. Comme on voit dans Apocalypse 20, versets 11 et 12. Ils sont ramenés à la vie, ils vont se voir enseigner les livres de la Bible pour comprendre le plan de Dieu, pour pouvoir se repentir, pour pouvoir voir à ce moment-là leur nom inscrit dans le livre de vie, au moment où ils sont baptisés et ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Là, leur nom est inscrit dans le livre de vie. Puis après ça vient la troisième résurrection, celle des incorrigibles qui ont volontairement rejeté Dieu ses voies, comme l'homme riche, dont le nom ne sera pas trouvé dans le livre de vie et qui aura alors été ressuscité. Pourquoi? Pour être jeté dans l'étang de feu, qui correspond à ce que la Bible appelle le jugement éternel, c'est-à-dire la mort éternelle ou la destruction totale, définitive, telle qu'on le voit, par exemple, vous pourrez aller voir dans Psaume 145 et le verset 20. Psaume 145, verset 20, dit ceci. « L'Éternel garde tous ceux qui aiment l'Éternel. » L'Éternel garde tous ceux qui aiment l'Éternel et il détruit tous les méchants. À un moment donné, la ligne va être tracée. Il va garder, et ça va être la vaste majorité, tous ceux qui vont avoir voulu lui appartenir. Mais les autres, par amour pour eux autres, il ne les fera pas souffrir éternellement. Il va leur enlever la vie, tout simplement. Il va leur enlever l'existence. Comme on voit et comme c'est décrit également dans Malachie, chapitre 4 et le verset 3, vous pourrez aller voir, Malachie, chapitre 4 et le verset 3, il dit, « Vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. » Pourquoi il dit ça? Parce que les méchants, lors de la troisième résurrection, vont être brûlés dans les temps de feu et deviennent tout simplement ce que devient tout corps physique lorsqu'il est passé par le feu. Il devient de la cendre. Question. À sa résurrection, le mauvais riche, est-ce qu'il aura eu conscience du temps qui va s'être écoulé à partir du moment où il est mort, puis là où il lève les yeux, puis il revient à la vie? Je pense que vous connaissez la réponse. Absolument pas. Il n'y aura aucune notion du temps qui a pu s'écouler. À la troisième résurrection, lorsque cet homme reprendra conscience et qu'il va lever les yeux, il n'y aura aucune notion du temps, absolument pas. Comme s'il n'y avait, pour lui, pas eu d'interruption dans le temps. Comme lorsque vous vous endormez le soir, puis à un moment donné, vous vous réveillez, vous ne savez pas s'il est 1h du matin, ou 4h, ou 5h, s'il ne fait pas clair, vous ne savez pas le temps qui est passé. Lorsqu'on est décédé, la Bible nous dit que c'est exactement comme ça, parce que c'est marqué dans Ecclésiaste que dans le séjour des morts, dans Hadès, il n'y a ni pensée, ni science, ni œuvre, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de sentiment. Non, on est mort, jusqu'à temps que Dieu nous ramène à l'existence humaine. Alors, le mauvais riche n'aura aucune notion du temps qui s'est passé lorsqu'il va être ramené à la vie. Écoutez, allez dans Ésaïe 63. Non, il faut qu'on prenne la peine d'y aller, c'est trop bon. Ça, j'ai trouvé ça superbe encore. Ésaïe 63. Ésaïe, chapitre 63. Le mauvais riche, lorsqu'il va être ramené à la vie, en se réveillant, il ne sait pas combien de temps qui s'est passé. Je vous pose la question comme ceci. Quand Abraham va être ramené à la vie, est-ce qu'il va savoir plus combien de temps qui s'est passé? Absolument pas. La même chose que l'autre, puis la même chose que pour tous les êtres humains. Et c'est formidable ici, le petit verset qu'il y a là, moi, ça m'avait frappé. J'avais vu ça il y a quelques années, mais je l'ai rattaché à ce qu'on voit ici aujourd'hui. Ésaïe 63, ça parle des Israélites au temps de la fin, au temps où nous sommes. Et regardez ce que ça dit. Ésaïe 63 et le verset 16. « Tu es cependant notre Père. » C'est comme si les Israélites parlaient à Dieu. « Tu es cependant notre Père. » Verset 16. « Car Abraham ne nous connaît pas. » Est-ce qu'Abraham vous connaît, vous autres? Ben non, il ne me connaît pas non plus. C'est les Israélites du temps de la fin qui disent ça. Vous voyez par le contexte que c'est dans les derniers jours, là. Alors, ceux qui parlent, c'est les descendants des nations d'Israël, puis ils disent à Dieu, « T'es notre père. » Mais Abraham, il ne nous connaît pas, lui. Il ne nous a jamais vus, il n'a jamais entendu parler de nous autres. Ça fait des milliers d'années qu'il est mort, qu'il est sans conscience, sans action, sans œuvre. Tant qu'il ne sera pas ressuscité, il ne nous connaîtra pas. On le connaîtra à ce moment-là, car Abraham ne nous connaît pas. Et Israël ignore qui nous sommes. Israël, c'est l'ancêtre des nations israélites. Le premier ancêtre de cette lignée-là. Alors, il dit, Abraham ne nous connaît pas, puis Israël, notre ancêtre, non plus, ne nous connaît pas, parce qu'il dorme du sommeil de la mort. Intéressant. Tout ça, ça se tient, là. À la résurrection, j'ajoute un autre élément, il faut aller plus loin dans ce qu'on regarde. À la résurrection, l'homme riche souffre cruellement dans une flamme. L'enfer. Non, c'est pas l'enfer, vous savez. Là, c'est pas l'enfer. Absolument pas. Mais quelle est donc cette flamme? Apocalypse 20, verset 14-15 nous répond. Il s'agit de la géhenne, de l'étang de feu, de la seconde mort, définitive celle-là, qui suit la troisième résurrection. Tout de suite après la troisième résurrection, l'étang de feu est là et ceux qui sont détruits sont jetés dans l'étang de feu. Et là, il n'y a pas de retour possible, c'est une punition finale, pas un supplice éternel, comme j'ai mentionné, mais une punition éternelle, c'est-à-dire la mort éternelle, une non-existence éternelle. Alors, dans la parabole, au moment où, de la troisième résurrection, lorsque le riche ouvre les yeux, qu'est-ce qu'il voit? Ça, c'est dans l'histoire que le Christ a racontée, là. Qu'est-ce qu'il voit? Et ceux qui vont être ramenés réellement à la vie lors de la troisième résurrection, parce qu'il y en aura, vont ouvrir les yeux, ils vont voir la même chose qui est décrite dans la parabole ici en ce qui concerne le mauvais riche qui voit quelque chose. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit, vous remarquez dans le contexte, il voit de loin Abraham. Ah oui? Oui, parce qu'Abraham a été ramené à la vie, ça fait longtemps. Ça fait 1100 ans qu'Abraham a été ramené à la vie à ce moment-là. Alors, ceux qui sont dans la troisième résurrection vont les voir, et ils vont voir, symboliquement, je le dis, parce que ça cause une parabole, mais ils vont voir Lazare aussi, qui va être là. OK? Alors, ils voient de loin, par exemple. Ce mot-là est important. Ils voient de loin. Ils voient, mais de loin. C'est-à-dire qu'ils voient Lazare et Abraham, Lazare dans son sein, c'est-à-dire intimement lié à son père dans la foi, étant uni à lui. Mais en même temps, ils voient autre chose. Ils voient de loin Abraham et Lazare qui sont des êtres immortels, mais de l'autre côté, ils voient l'étang de feu. C'est le spectacle qui se présente à ses yeux lorsqu'il revient à la vie. Et là, il éprouve une frayeur extrême, de l'angoisse, puis une agonie terrible. Et là, sa gorge se déchèche. Et là, c'est pourquoi il demande que Lazare lui apporte un peu d'eau pour sa langue. Si c'était un feu de l'enfer ou tout ça, il aurait peut-être demandé beaucoup d'eau pour éteindre le feu, là. Mais c'est qu'il est tellement angoissé par ce qui se passe. Vous savez, quand on a peur, quand on est angoissé, qu'est-ce qui arrive? On a de la difficulté même à avaler. Alors, c'est pour ça qu'il demande un peu d'eau pour mettre sur sa langue, pour être capable d'avaler, tellement il est angoissé par ce qu'il voit. Alors, il éprouve de terribles tourments. Pourquoi? Parce qu'il voit que lui est encore mortel, comme avant sa mort, alors que Lazare, lui, est maintenant immortel. Et pourquoi les tourments sont tellement terribles? C'est parce qu'il voit de l'autre côté l'étang de feu, ce qui lui fait comprendre qu'il se trouve précisément, et là je cite, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, en voyant Abraham et Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu, tel que le Christ l'avait prédit. Tel que le Christ l'avait prédit. Vous irez voir dans Luc, chapitre 13, versets 27-28. Luc 13, 27-28. Le Christ a dit, il y aura des pleurs et des grincements de dents pour ceux qui seront là. Et là, il se retrouve, le mauvais riche se retrouve à la troisième résurrection dans cette situation-là. Alors, durant sa vie, le riche avait volontairement tourné le dos à Dieu, rejeté volontairement la vie spirituelle et l'amour divin pour se réfugier exclusivement dans les plaisirs et dans les richesses qu'il avait. Les richesses ne sont pas mauvaises en soi. Abraham était un homme très riche, d'ailleurs. Dieu ne lui a jamais reproché. Pourquoi? Parce que pour lui, il utilisait ses richesses pour le bien et de bonne façon. Il y avait quelque chose de supérieur à ça comme motif de vie. Alors que dans le cas du mauvais riche ici, tout était centré sur lui-même. OK? Alors, c'est ce qu'on voit. Alors, durant sa vie, le riche avait délibérément donc se tourné contre Dieu pour se réfugier dans les richesses, dans ses richesses, sa vie à lui, ses choses à lui, ses plaisirs à lui. Et au verset 26, il y a d'autres choses de plus. Abraham dit encore à l'homme riche, ça c'est important que je le précise, il y a entre nous, là il parle, c'est Abraham qui parle, entre nous, c'est-à-dire moi, Lazare, tous ceux qui sont ressuscités maintenant, qui sont des êtres spirituels, il y a entre nous et vous, toi l'homme riche, et les incorrigibles qui ont été ressuscités à la troisième résurrection, il y a entre nous et vous un grand abîme. OK? Il y a un grand abîme. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici à là ne peuvent pas le faire, et que ceux qui voudraient passer de votre place, vous qui êtes encore des êtres physiques, à la nôtre, nous qui sommes des êtres spirituels, qu'on ne peut pas le faire. Il y a un abîme incommensurable entre les deux groupes, entre nous qui sommes rendus à être spirituels immortels, et entre vous qui avez été ramenés à la vie physique parce que vous êtes incorrigibles, vous ne pouvez pas traverser ce côté-ci. Comme nous, on ne peut plus retourner de l'autre côté parce que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Abraham aurait pu rajouter ça. Parce que nous avons reçu la vie éternelle. Et comme c'est marqué dans Apocalypse 20, verset 6, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur ceux qui sont ramenés à la vie, en vie, mais qui reçoivent la vie éternelle. Et le grand abîme dont il est question ici, c'est l'immortalité. À ce moment-là, au moment de la troisième résurrection, au moment où sont ramenés à la vie physique les incorrigibles, les serviteurs de Dieu, eux, sont déjà des êtres spirituels immortels. Voilà toute la différence entre les deux. Et pour les serviteurs de Dieu fidèles qui ont la vie éternelle, qui reçoivent l'héritage des nations et du monde, pour eux, c'est le commencement. C'est à peine le commencement de l'éternité, pour ainsi dire. Alors que pour ceux de la troisième résurrection, c'est le dernier tourment avant de cesser d'exister. Dans le reste de la parabole, après ça, soit du verset 27 au verset 31, il se passe d'autres choses. Là, le riche supplie Abraham d'envoyer Lazare vers les membres de sa famille pour qu'il comprenne à temps et qu'il ne soit pas comme lui jeté dans les temps de feu. Il se rappelle qu'il y a des frères à la maison. C'est pour ça qu'il ne sait pas qu'ils sont morts, là, lui. Je lui ai dit tantôt, il ne savait rien durant tout le temps qu'il était mort. Alors, il dit, « Père Abraham, j'ai des frères. Envoie quelqu'un pour leur dire, pour qu'ils changent, pour qu'ils ne se retrouvent pas dans la position où moi, je me trouve actuellement. » Alors, envoie Lazare vers les membres de ma famille pour qu'ils comprennent et qu'ils ne soient pas jetés comme moi dans les temps de feu. Alors, il plaide même que si un ressuscité, comme Lazare, va leur parler, là, ils ne vont pas vraiment comprendre. OK, là, il dit, ils vont accepter, mais qu'il va être un ressuscité. Là, ici, je fais une parenthèse. Il y en a eu des résurrections quand le Christ était sur la terre. Est-ce que les gens ont cru? Est-ce que les gens ont changé? Combien étaient présents à la Pentecôte après que le Christ est mort dans ses souffrances horribles? 120 personnes. Après 3 ans et demi de ministère, après des prodiges incroyables, des miracles splendides, formidables, et des résurrections. Alors, il y en a eu des résurrections. Ils ne pouvaient pas dire, envoie quelqu'un de ressuscité, là, ils vont croire. Non, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Alors, il supplie d'envoyer Lazare, donc, d'envoyer un ressuscité pour qui, en espérant qu'il comprenne. Mais regardez ce qu'Abraham fait, il refuse. Abraham refuse, mais il y a des raisons de refuser. Ce n'est pas juste par sur un coup d'émotion pour dire, non. Il y a des raisons absolument certaines et profondes. Il refuse parce que ces gens-là, avait eu, et vous lisez dans le texte, avait eu le témoignage de qui? De Moïse. Il y avait eu le témoignage des prophètes par la suite. Mais quoi? Ils ont refusé de se repentir en toute connaissance de cause. Ça, c'est l'élément important. Ils ont refusé de se repentir en toute connaissance de cause. Ce que le Christ lui-même leur avait reproché en les traitant d'hypocrites, puis en leur annonçant que le malheur de la géhenne, c'est-à-dire la mort éternelle, les temps de feu, viendrait sur eux, les scribes et les pharisiens hypocrites, comme vous pourrez le lire dans Matthieu 23, versets 1 à 36. Là, le Christ les décrit et leur parle franchement, avec énormément d'autorité, avec énormément de force. Et je vous en cite simplement quelques versets. Matthieu 23, verset 13. Le Christ leur dit... Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce qu'ils savaient. Ça ne s'adressait pas à n'importe qui, là. Ça ne s'adressait pas à quelqu'un qui n'avait pas reçu le témoignage ou qui n'avait pas été appelé. Il y avait le Christ lui-même devant eux, avec tous les miracles qu'il avait faits, tout le témoignage qu'il avait fait. Il était lui-même, dans sa personne, la preuve vivante de l'accomplissement de la prophétie qu'eux connaissaient très bien par les Écritures. Alors, c'était très fort. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Et je souligne ça ici. Vous n'y entrez pas vous-même. Et vous n'y laissez entrer, n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, c'est-à-dire un nouveau converti. Vous faites des mains et des pieds pour convaincre d'autres des choses que vous connaissez. Et quand il est devenu quelqu'un qui veut se convertir, vous faites de lui un fils de la géhenne, un fils de l'étang de feu. OK? Vous lui montrez à faire ce que vous faites. Deux fois plus que vous-même. Versets 29 à 33 après. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, continue sur le même ton, parce que vous bâtissez le tombeau des prophètes. Ils ont tué comment de prophètes de Dieu au cours de l'histoire? Et vous ornez les sépulcres des justes et vous dites, « Si nous avions vécu au temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. » Et là, le Christ les prend au mot. Hein? Eux disaient ça. Si on avait été à la place de nos pères, on n'aurait pas tué les prophètes. Le Christ dit ceci, « Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Et vous êtes comme vos pères. » C'est ça que ça sous-entend. Et même assez directement. « Vous êtes les fils de ceux-là même que vous dites qui ont tué les prophètes. Et vous marchez dans les traces de vos pères. Comblez la mesure de vos pères. » Allez-y, continuez. C'est ça qu'il leur dit. « Continuez. Continuez, c'est ce que vous êtes en train de faire. Serpent, race de vipère. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? » Rappelez-vous que quand le Christ a donné cette parabole de l'homme riche et de Lazare, il s'adressait directement aux pharisiens qui étaient venus l'entendre et qui se moquaient de lui, le Créateur de l'univers, qui avait fait tous ses prodiges devant eux, qui avait témoigné même de sa personne et de la puissance qui était la sienne. Alors, non seulement, alors, ils ont refusé de le reconnaître comme le Messie, puis ils savaient par les textes quand il allait venir, dans quelles circonstances, tous les signes qu'on peut voir par les prophéties. Alors, non seulement ils refusaient de le reconnaître comme le Messie promis dans les Écritures, qu'ils connaissaient parfaitement bien, mais après sa résurrection, ils ont été plus loin. Après sa résurrection, ils ont même comploté en toute connaissance de cause pour faire croire qu'il n'était pas ressuscité. Pour faire croire qu'il n'était pas ressuscité, mais que c'était plutôt ses disciples qui étaient venus de nuit voler son corps dans le Hadès, dans le tombeau où il avait été placé après qu'il avait été descendu de la croix. Et c'est d'ailleurs à cause de ce mensonge-là, délibéré de la part des chefs religieux de l'époque, que la plupart des Juifs, jusqu'à aujourd'hui, ne croient pas que le Messie est venu sur la terre une première fois dans la chair, tel qu'on le voit dans Matthieu. Je pense que ça vaut à peine qu'on aille voir ça. C'est à partir de ce mensonge-là qu'ils ont bâti de toutes pièces, en connaissance de cause, en sachant que c'était un mensonge, malgré que ce que le Christ avait annoncé, qu'il allait ressusciter au bout de 3 jours, qu'il l'a fait effectivement et que les preuves étaient là, eux ont abrié tout ça, ont bâti un mensonge, ont payé pour que ce mensonge-là continue, et ça s'est continué jusqu'à aujourd'hui. La rumeur, le mensonge, alimenté par l'adversaire, bien sûr, s'est continué jusqu'à aujourd'hui. Allez dans Matthieu 28. Matthieu 28. On va commencer à Matthieu 27, juste pour bien situer le contexte. Matthieu 27, commençant au verset 62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs, ça c'est tout de suite après la mort du Christ, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, voilà comment il traite le Christ, a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Le 3 jours n'était pas fini encore. Mais voici ce qui se prépare. Ils n'attendent pas même de voir de leurs yeux pour prendre une décision. La décision est déjà prise. Que même si c'était vrai, on va le cacher. C'est ça que ça veut dire. Ordonne, alors ils disent au chef de l'État, « Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas le dérober le corps, et dire au peuple, il est ressuscité des morts. cette dernière imposture serait pire que la première. OK? Pilate leur dit, vous avez une garde, prenez-la, allez, gardez comme vous l'entendez. Et ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Ils ont scellé l'entrée, une pierre énorme, ça a été scellé comme il faut, et ils ont mis des gardes devant pour être certains que rien n'allait bouger. Mais vous savez que le Christ a été ressuscité, il est sorti du sépulcre, les femmes sont allées pour voir. Après, on voit verset 2, mais 28, verset 2, « Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Ils étaient figés, gelés sur place, plus capables de bouger. » Parce qu'eux autres, là, ils avaient entendu les mêmes propos de tout le monde autour. Ils étaient dans l'action de ce qui se passait. Ils ont vu l'ange, ils ont vu la pierre être roulée, ils ont vu ces choses-là se passer. Et ils étaient figés de peur. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, je sais que vous cherchez Jésus. » Et là, il leur explique. Et le verset ensuite... OK, le verset ensuite 11... Pendant que les femmes étaient en chemin, quelques hommes de la garde qui avaient monté la garde devant la pierre là, entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ils en avaient été témoins, là. Ils leur ont dit exactement ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Tout s'achète avec de l'argent. En disant, « Dites, ses disciples sont venus pour le dérober pendant que nous dormions. » OK, alors ils ont acheté le silence, ils ont donné une forte somme d'argent. Ils ont dit, répandez la nouvelle à l'effet que les disciples sont venus, vous autres vous dormiez. Ils ont été capables de ôter la grosse pierre qu'on a mise, vous n'avez même pas eu connaissance. Ils ont pris le corps, ils ont sorti, vous ne l'avez pas vu. Puis ils ont dit après, si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit ou ce mensonge ou cette rumeur s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Alors voilà pourquoi la plupart des Juifs ne croient pas que le Christ est venu une première fois sur la terre. Ça a resté dans les traditions orales et dans leur littérature. Alors je reviens à Abraham, qui refuse qu'un ressuscité aille vers ses frères, vers les frères de l'homme riche, parce qu'Abraham leur dit, ils ont eu Moïse, ils ont eu les prophètes, et on peut ajouter, ils ont eu même le Christ qui leur a parlé directement. Alors, il est facile de comprendre pourquoi Abraham refuse la dernière demande de l'homme riche pour qu'un témoignage supplémentaire, parce qu'il y en avait eu assez de témoignages, un témoignage supplémentaire soit donné devant les siens, parce que ceux-ci avaient déjà eu le témoignage de Moïse, le témoignage des prophètes et le témoignage du Christ en personne. Alors, voyez-vous maintenant le sens de cette parabole, c'est incroyable, c'est superbe, c'est une perle. Et là-dedans, il y a le cœur de l'Évangile. L'Évangile, c'est l'Évangile du salut, l'Évangile de la vie éternelle. Et ça comprend, bien sûr, les résurrections. Et il y en est question dans cette parabole-là, et on voit les différentes résurrections qui sont mentionnées. Alors, par cette parabole-là, le Christ annonce l'Évangile du royaume éternel, l'Évangile de l'immortalité, de la vie éternelle qui va être accordée aux justes lors de la résurrection. Et il annonce également le sort qui va être réservé aux incorrigibles qui vont être jetés dans les temps de feu pour mourir et ne plus exister éternellement. Il nous montre aussi qu'à la troisième résurrection, les jeux sont définitivement faits pour tous et chacun. Il n'y a plus de changement possible. On ne peut pas passer d'un côté à l'autre comme il est mentionné dans la parabole. Il n'y a plus de retour possible en arrière pour changer quoi que ce soit. Ce qui avait à être fait a été fait par ceux qui ont voulu le faire avec l'aide de Dieu. On est rendu au bout de l'histoire à ce moment-là. Cette parabole-là enseigne aussi que c'est dans la chair, nous, là, les appelés maintenant, que c'est dans la chair qu'on doit se repentir et faire un choix définitif en faveur des lois et des voies divines. C'est dans la chair, nous, qu'on doit faire ce choix-là et avec l'aide de Dieu, de persévérer à développer, de vivre selon ses voies, selon ses commandements, selon ses directives, quand Dieu nous appelle. et que notre décision en ce qui concerne ça et notre persévérance a une portée éternelle. Alors, cette parabole, c'est encore l'annonce de l'Évangile et ça nous montre encore une fois le grandiose plan de salut de notre grand Dieu.